Radio Kapi.
En actualité ce soir, c'est ce premier module de l'usine de traitement d'eau de la Régie des Eaux au quartier Ozone que Félix Tshisekedi a inauguré ce jeudi. Ce complexe industriel a la capacité de traiter et fournir de l'eau potable aux populations de Ngaliema et Mongafula dans la partie ouest de la ville province de Kinshasa. Autre actualité, c'est ce plaidoyer de l'ONG Justicia Aspel pour une prolongation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Haut-Katanga. Dans ce journal, vous suivrez les motivations de cette demande de prolongation avec le coordonnateur de cette ONG. Pasteur Dédé Mutombo, secrétaire général de la pastorale congolaise de la Belgique, est l'invité à suivre en fin de cette édition. Une structure regroupant des églises de réveil qui est engagée à assister les personnes à mobilité réduite pour se faire enrôler. En suivant ce journal, vous aurez les autres aspects de l'actualité congolaise. Restez donc avec nous. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé ce jeudi à Kinshasa à l'inauguration de la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable de Mbinza Ozone dans la commune de Ngaliema. Cette première phase du projet est réalisée à la hauteur de près de 71 millions de dollars pour une capacité de 110 000 mètres cubes par jour. Cette infrastructure est le résultat obtenu grâce au financement de la Banque mondiale dans un premier temps dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain PAMU, puis dans un deuxième temps dans le cadre du projet Kin-Elenda. Quels sont les quartiers qui seront desservis par l'eau potable de la Régie des Eaux grâce à cette première phase de l'usine de traitement d'eau? David Mutombo Chilumba, directeur général de la Régie des Eaux, donne des précisions dans cet extrait proposé par Peliki Pelamondo.
Avec l'inauguration de ce module aujourd'hui, les agglomérations suivantes auront finalement accès à l'eau de manière régulière et pour certaines agglomérations après plus de 5 ans sans eau. Dans la commune de Ngaliema, les quartiers suivants auront de l'eau. Mboudi, Lutendele, Makampa, Meteo, Mbinza Delbo, Djelo Mbinza, Ngomba Kisu, Sangamamba, Kinsuka, Kimbwala, CPA et Malweka. Une grande partie de la commune de Kintambo sera arrosée. Dans la commune de Selembao, les quartiers ci-après seront également arrosés. La Cité Verte, Badiading, Kitokimosi et Kampi. Dans la commune de Mongafula, les quartiers suivants ont finalement de l'eau. Cité Maman Mobutu, Kimbondo et Mitendi. Avec les travaux de la deuxième phase de cette usine qui ont déjà commencé, nous envisageons alimenter le réservoir des Makala pour donner de manière permanente l'eau aux agglomérations suivantes, Bandalungwa, Kasavu, Selembao, Bumbu, Makala et Kalamu.
Sud Kivu à présent, lancement hier mercredi des travaux d'entretien mécanisé de la route nationale numéro 3, RN3. Une première phase de ces travaux sur environ 45 km dans le parc national de Kahuzi-Biega sur financement du fonds d'entretien routier FONER. Détail avec Emmanuel Elamejiou Akabidi.
Cette première phase d'entretien mécanisé de la RN3 va de Miti en territoire de Kabare jusqu'à Bitale en territoire de Kalehe sur 45 km. L'office de route Sud Kivu envisage exécuter ces travaux pendant 5 mois hors intempéries. C'est notamment le reprofilage, les compactages, le rechargement partiel ainsi que la suppression de bourbiers. Il bénéficie du financement du Fonds national d'entretien routier FONER dans son programme d'entretien routier 2022. En lançant ces travaux, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidie Kassi, dit ceci.
Aujourd'hui, les moyens ont été mis à la disposition de l'Office des routes à travers FONER et nous venons donc lancer ces travaux qui vont résoudre ces épineux problèmes des manques d'infrastructures dans notre province. Nous allons tout faire pour que la route soit praticable, mais pour que la route reste aussi opérationnelle, il faut qu'il y ait une conscience vis-à-vis des usagers. Donc il faut qu'on puisse maintenir, je crois, à travers les systèmes de péage, comment entretenir la route.
Signalons que la RN3 est une route d'intérêt national capital. Elle relie Bukavu à Kisangani sur environ 583 km. Son tronçon Miti Bunyakiri Ombo est très délabré et même impraticable. Emmanuel Elamejiou Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et puis lancement officiel ce mercredi 23 février des travaux du projet du développement local des 145 territoires dans la province du Kwilu par le gouverneur Willy Itundala. La première phase de ce projet concerne la construction des écoles primaires et des centres de santé modernes. Pour les autorités sanitaires du Kwilu, la matérialisation de ce projet est une réponse aux préoccupations de la population de cette partie du pays. C'est en principe ce 23 février que se clôture l'opération d'inscription et d'enrôlement des électeurs pour les bureaux qui avaient ouvert le 25 janvier dernier dans la deuxième aire opérationnelle. Au regard de l'engouement que s'observe ces derniers jours, plusieurs personnalités et organisations de la société civile, à l'instar des Justicias SBL, une ONG de défense des droits de l'homme demande de la Commission électorale nationale indépendante une prolongation. Timothée Mbouya, son coordonnateur, donne les raisons qui justifient cette demande de prolongation. Il est au micro de Jean Andou.
Il y a eu quelques dérapages que la CENI était censée corriger, dénoncer en temps opportun. Il s'agit par exemple du monnayage de l'accès au bureau d'enrôlement, la suffisance des machines d'enrôlement et ajouter à cela le fait que des machines tombent régulièrement en panne ou que des personnes non habilitées puissent détenir des fiches et des cartes d'électeurs. Tout ceci peut expliquer les faibles taux d'enregistrement des électeurs. Justicia, saisissant l'opportunité, demande au président de la CENI de prolonger les délais d'identification et d'enrôlement des électeurs. Elle demande également à la police de tout mettre en œuvre pour relever les policiers de manière régulière afin de ne pas permettre ce monnayage dans l'accès au bureau d'enrôlement. Elle demande aux partis politiques de sensibiliser leurs militants pour que ceux-ci ne puissent pas s'attaquer aux agents de la CENI ainsi qu'à leurs biens. Mais elle demande également à la population de s'abstenir de tout acte de corruption, tout acte de provocation ou de trafic d'influence.
Les cinq communautés et leurs alliés victimes des atrocités des groupes armés en Ituri regroupés dans la structure dénommée G5A dénoncent la continuité des violences dans leur province. Ces communautés sont entre autres les Ema, Mambisa, Nyalikilo, Alour et Ndong Okebo. Dans une déclaration faite à la presse hier mercredi à Kinshasa, la délégation du G5A dit fustiger l'inefficacité de l'état de siège décrété par le chef de l'État, notamment en Ituri, et demande au président de la République d'ordonner l'intensification des opérations militaires dans la province pour arriver à bout de toutes les forces négatives. Ces structures recommandent également à la communauté internationale d'aider le gouvernement dans cette lutte en adaptant notamment le mandat de la MONUSCO au contexte sécuritaire. On écoute Maître Christian Outeki Udongo, président du G5A, au micro de Grâce à Mzati.
Nous sommes en train de subir de graves atrocités, des massacres, des pillages de nos biens, des destructions méchantes. C'est comme cela que nous recommandons au chef de l'État d'ordonner l'intensification des opérations militaires contre tous les groupes armés qui pillent en province de l'Ituri. Et au niveau de la communauté internationale, nous avons recommandé qu'ils puissent reconnaître l'existence des génocides contre nos communautés en province de l'Ituri, mais aussi accompagner le gouvernement congolais sans hypocrisie dans sa mission de la restauration de la paix et de la sécurité en province de l'Ituri. Nous avons aussi recommandé, tout en saluant la sagacité de la CENI qui a finalement pris la résolution d'organiser l'enrôlement au compte des déplacés qui sont éparpillés dans plus de 70 sites de déplacés en province de l'Ituri, que la CENI puisse rendre effectif cet enrôlement de déplacés, que la CENI puisse aussi concourir ensemble avec les chefs locaux d'éviter d'enrôler des étrangers, et à la communauté itourienne, nous les recommandons tout simplement de se mobiliser afin d'appuyer les forces de défense de la République du Congo, mais aussi de participer activement au processus électoral. Et pour ce qui concerne nos frères et sœurs victimes, nous leur demandons de demeurer unis.
Le gouvernement américain exprime sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Ceci ressort d'un communiqué de presse du Conseil d'État des États-Unis rendu public mercredi 22 février. Le gouvernement américain réagit et encourage ainsi les résolutions issues de la réunion des derniers conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 17 février dernier à Addis Abeba sur la situation dans l'est de la RDC. Bernard Denyangi.
Les États-Unis condamnent, selon ce communiqué, les violations des droits de l'homme commises par les groupes armés, en particulier le M23, l'ISIS RDC et les FDLR, et exigent que tous les groupes armés cessent les hostilités et se retirent sans condition de l'Est de la RDC. Le département d'État encourage par ailleurs la mise en œuvre des résultats du communiqué du ministre au sommet de l'EAC du 17 février, des recommandations du processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que du communiqué de Luanda du 23 novembre. Il encourage aussi le soutien du mécanisme conjoint de vérification élargi, celui de la MONUSCO, ainsi que la question des démobilisations des ex-combattants et du retour volontaire des personnes déplacées et des réfugiés. L'Amérique dit aussi prendre acte de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'OUA d'utiliser le Fonds pour la paix de l'Union africaine pour soutenir le déploiement des forces régionales de la Communauté d'Afrique de l'Est et ACRF. Aussi, le gouvernement américain dit réitérer son appel au Rwanda a cessé de soutenir la rébellion du M23 et a retiré ses troupes de la RDC afin de faciliter la mise en œuvre des engagements conformément au calendrier approuvé lors du mini-sommet de l'EAC le 17 février dernier.
La défense opposée de la SNEL plaide pour l'acquittement de ses clients dont elle clame l'innocence. À l'audience publique hier mercredi devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe à la prison centrale de Makala, les avocats des prévenus ont fait savoir à la cour que l'accusation n'a pas été en mesure de prouver l'infraction des détournements présumés des deniers publics. Les prévenus Jean Bosco Kayombo et Justin Muteba, respectivement ancien directeur général et directeur financier de la SNEL, et l'ingénieur Charlotte Kissemi, coordinatrice de la Task Force chargée des suivis techniques du placement des compteurs après paiement de la SNEL seront fixés sur leur sort le mercredi prochain. La Cour a pris cette affaire en délibéré. Un des conseils de la défense, Maître Francis Lungunda, nous résume ici sa plaidoirie au micro de Jeff Ngoy.
La SNEL et la société Connect Africa ont fait un montage tel qu'il est impossible à un agent de la SNEL de pouvoir s'immixer dans la gestion des fonds recueillis selon la clé de répartition prévue dans un contrat qui a été signé entre SNEL, Connect Africa et Blue Energy. C'est impossible. Alors, il y a eu des témoins, puisque nous disons qu'au niveau des évidences, on peut utiliser la preuve testimoniale, la preuve par témoin. Et donc, il y a eu deux témoins clés qu'on a cru citer à charge, mais qui, une fois arrivés devant la cour, ont déposé en faveur des prévenus, en disant qu'il est manifestement impossible pour un agent de la SNEL de recueillir ses fonds et d'en détourner la destination. Puisqu'après tout, l'infraction de détournement, il faut absolument démontrer que l'argent était détenu par l'un d'entre eux.
Dans le nord Oubangui, c'est la grogne des enseignants qui sont payés par la Caritas à Molégbé. Ces agents accusent déjà deux mois d'arriéré de salaire, janvier et février en cours. Privés de salaire qui a un caractère alimentaire, la plupart de ces enseignants expriment leur difficulté de nourrir leurs enfants, soit de les scolariser ou de payer les loyers. Malgré les démarches entreprises, seuls les frais de fonctionnement des écoles sont parvenus à goupiller. Mais les salaires se font toujours attendre. C'est pourquoi le président de l'intersyndicale et porte-parole des enseignants du Nord Oubangui a dénoncé la situation. Apollinaire Nganga a été joint par Paul-Richard Malengela.
Actuellement, depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, les enseignants qui sont payés par Caritas ils sont restés impayés. C'est pour ça que nous sommes surpris que jusqu'à ces jours, alors qu'on attend la paix du mois de février, c'est pour ça que ça inquiète.
Mais qu'est-ce que vous avez pu découvrir après vos investigations, vos contacts avec la Caritas?
La Caritas dit que l'argent a été déjà versé parce que c'est leur banque appelée IFOD qui devait verser l'argent directement au niveau de TMB. Mais c'est comme si IFOD, cette partie, a versé l'argent au niveau de BCDC. BCDC qui devait payer, mais au niveau de la banque, il n'y a que les frais de fonctionnement qui sont arrivés. Est-ce qu'on peut vraiment envoyer les frais de fonctionnement sans salaire? C'est pour ça que nous sentons que quelque part, l'argent est détourné. Alors s'ils ont une autre version, qu'ils paient les enseignants. En tant que président et porte-parole des enseignants, nous accordons à la Caritas 48 heures. S'ils ne payent pas, nous allons aller en grève. C'est fini. On menace de quitter Caritas pour aller ailleurs parce que ce n'est pas une banque de confiance.
Contacté, l'ordonnateur délégué provincial Papi Ngombe, qui vient de rentrer d'une mission de service, a promis de s'enquérir de la situation avant de donner sa réaction. Nous nous rendons dans la province du Maniema où les enseignants du territoire des Pougna réclament leur salaire de janvier à la Caritas Congo. Dans une déclaration faite hier mercredi à Radio Okapi, ces derniers disent ne pas comprendre comment leurs collègues des autres territoires reçoivent sans problème leur salaire. Ils ajoutent que même leurs primes de gratuité ne viennent pas non plus. La société civile Force Vive du Maniema, antenne de Pougna, enjoint aussi leur voix pour interpeller la conscience des décideurs étant donné que cette situation a des conséquences fâcheuses à la formation des enfants. Jean-Claude Ngoy est le vice-président de cette structure citoyenne. Il parle au micro de Florence Kizalunga.
La société civile Force Vive du Maniema Antenne de Pougne avons le regret d'informer à l'opinion, tant nationale que provinciale, la maltraitance que subissent les enseignants du territoire de Pougne sur leur paye par la Caritas Congo. Alors que les enseignants de toute la province sont régulièrement payés, ceux de Pougne demeurent toujours impayés. Cette situation n'est pas sans conséquence dans la formation des enfants qui se voient des fois retourner ou passer des journées sans être enseignés. Les enseignants viennent d'ailleurs d'une grève qui a pris fin il y a une semaine, alors que le calendrier scolaire ne sera pas aménagé. Nous déplorons également le non-paiement de la prime de gratuité pendant une année scolaire, alors que les enseignants de Kindu et ailleurs en bénéficient. C'est pourquoi nous interpellons le gouvernement tant central que provincial pour la prise en charge de la situation des enseignants de Pougne, soit en changeant la banque payeuse, soit en harmonisant avec Caritas Congo.
Actualité internationale.
Des ONG ont dénoncé mercredi un discours raciste et haineux du président tunisien Kais Saied après sa violente charge contre les migrants originaires d'Afrique subsaharienne qu'il a présenté comme une menace démographique pour son pays. Le président Saied a prôné mardi des mesures urgentes contre l'immigration clandestine des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source des violences, des crimes et d'actes inacceptables. 4 personnes ont été tuées par le passage du cyclone Freddy sur la grande île de 28 millions d'habitants, selon le dernier bilan donné mercredi matin par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Plus de 16 600 malgaches ont été touchés et quelques 4 500 maisons ont été inondées ou endommagées.
L'invité.
À Bruxelles, une structure dénommée Pastorale Congolaise de Belgique sensibilise les Congolais vivant en Belgique à identifier les personnes à mobilité réduite de nationalité congolaise pour les accompagner à l'enrôlement pour obtenir la carte d'électeur. Pour en savoir plus, nous recevons Pasteur Dédé Mutombo-Kazadi, secrétaire général de la Pastorale Congolaise de Belgique. Il s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, Pasteur Dédé Mutombo-Kazadi. Qu'est-ce que cela veut dire, la Pastorale Congolaise de Belgique?
La Pastorale Congolaise de Belgique est un, je dirais, rassemblement des pasteurs des différentes églises qui se sont mis d'accord de marcher ensemble pour promouvoir l'unité et au maximum diminuer tout ce qui est division.
C'est parce que vous êtes à l'étranger?
Ben, d'un côté aussi, oui. Parce qu'en étant à l'étranger, comme vous le savez très bien, on est un peu dilué dans beaucoup de choses ici. Alors, on trouve qu'être dans une structure qui rassemble, qui vous met ensemble, eh ben, ça devient une force face à la réalité de la vie à l'étranger.
Votre structure existe depuis combien de temps?
Bon, la structure existe depuis 2006. Bon, il y en avait d'autres, mais ça n'avait pas cette ampleur que nous voyons aujourd'hui. Ben, cette structure que nous avons aujourd'hui, elle a beaucoup plus d'ampleur parce qu'elle est inclusive, elle réunit presque la plus grande partie des pasteurs.
Quels sont les objectifs poursuivis?
D'abord, l'unité des Congolais chrétiens vivant à l'étranger. Et deuxièmement, voilà, la transmission de l'amour, la fraternité, l'entraide.
Au-delà de l'unité, Pasteur Dédé, nous voyons que la pastorale congolaise de Belgique s'implique dans le processus électoral qui est actuellement élargi à la diaspora congolaise. Quelle est la motivation?
La motivation est que durant le temps passé, on avait constaté, même au niveau de nos églises, qu'il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de mécontentement. Et comme nous, étant pasteurs, on est tout le temps en contact avec les fidèles, nous nous sommes dit, il est de notre devoir de pouvoir les expliquer clairement le bien fondé actuel de pouvoir s'enrôler. S'enrôler pourquoi? Parce que déjà c'est pour arriver à faire un choix, donc avoir cette capacité de choisir. Donc on ne peut pas choisir si on n'a pas été enrôlé. Et pour nous, on trouve que l'heure est arrivée où les Congolais dans leur ensemble, vivant à l'étranger, doivent s'enrôler massivement pour pouvoir choisir la bonne personne pour les élections à venir.
Et là, vous avez lancé le message et les communiqués en faveur des personnes à mobilité réduite. Quel est le service que votre structure leur offre?
Les services que nous offrons n'est pas vraiment un service professionnel, on doit l'admettre. C'est-à-dire, on a demandé à chaque pasteur qui a un véhicule, qui a dans sa connaissance, dans ses listes de membres, des personnes à mobilité réduite, et que le pasteur s'organise vraiment par amour d'aller chercher ces personnes-là et de les amener à l'ambassade. Donc, nous partons sur base de l'entraide. Je me déplace avec ma voiture, je connais que telle maman habite à tel endroit et qu'elle fréquente mon église. Elle est congolaise, elle doit aller voter. je vais aller, je vais la prendre et l'amener. Bon, on les fait, voilà, de bonne foi.
Vous avez accompagné jusque-là combien de personnes à mobilité réduite à l'enrôlement?
Si j'ai une très bonne mémoire, nous pouvons déjà environner dans des vingtaines de personnes. Il y a des situations de santé, des déplacements, il faut devoir planifier, gérer. Donc, c'est allé vraiment à compte-gouttes, mais gloire à Jésus-Christ, parce qu'il y a déjà quand même plus ou moins une bonne vingtaine. Ça veut dire que si cela était suffisamment bien organisé et qu'il y avait des moyens suffisants qui étaient mis à la disposition de la pastorale de Congolais vivant en Belgique, certainement nous allions les faire avec beaucoup, beaucoup d'impact.
Est-ce que vous avez tout le matériel nécessaire pour déplacer ces personnes en mobilité réduite?
Nous n'avons pas tous les matériels nécessaires. Pour nous, c'est un signal. On a tout simplement sonné l'alarme pour dire qu'il y a ces personnes-là qui existent, qui sont ici et peut-être qui n'ont pas suffisamment l'information sur ce qui se passe. Donc, pour nous, c'est un signal pour pouvoir éventuellement, prochainement, interpeller aussi tous et que à chaque fois quand il y a des élections, des enrôlements, des choses comme ça, qu'on pense aussi à ces personnes-là qui vivent ici à l'étranger.
Pensez-vous encore les récupérer pour qu'ils aillent voter?
Nous restons très fermes dans notre volonté, dans notre conviction d'aller jusqu'au bout avec cette mission que nous sommes en train de faire. Et si des moyens sont mis à notre disposition, nous sommes une structure responsable et nous les utiliserons effectivement pour pouvoir encore faire plus. Mais si ces moyens ne sont pas là, nous irons toujours avec la force que nous avons actuellement, ça veut dire l'effort personnel.
Quel message vous leur apportez pour les convaincre à accepter le déplacement?
Le message que nous leur apportons, c'est qu'ils ont leur place dans la société et que la société ne les oublie pas, surtout nous, la pastorale des Congolais vivant en Belgique, nous ne les oublions pas. Et surtout, en tant que père des assemblées, des églises, nous les approchons en leur montrant que voter est un droit très très important, qu'il faut vraiment sécuriser. Et pour cela, nous leur démontrons, nous leur exprimons toute notre reconnaissance qu'à l'heure actuelle, malgré leur âge avancé, malgré les handicaps liés à la santé, nous sommes là pour eux, on est ensemble, le Congo est uni avec tous ses fils et filles.
Pasteur Dédé, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Fidèles auditeurs, voilà qui met un terme à cette édition de journal préparée par Élisée Chikota et l'ensemble de toute la rédaction. Prise de soins et mise en onde de Billy Landry Beto, présentation de Billy Ivan Lutumba. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue.